France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille le baryton Jean-François Lapointe qui, depuis sa jeunesse québécoise, s'est pris d'amour pour le chant français, l'opéra et l'opérette. Entre deux rôles sur les grandes scènes lyriques, il sera dans quelques jours à Radio France pour chanter Monsieur Beaucaire d'André Messager. En fin d'émission, Serge Laïque vous proposera un portrait du génial orchestrateur Klaus Ogerman. Mais pour commencer, et puisqu'on parle si souvent du Proche-Orient embrasé par la guerre, moi je vous propose un autre Orient embrasé par la femme.
M'appelle l'Oriental, au regard fatal. On m'appelle l'Oriental, la sentimentale. Les chouffnis, elles bouillent chouel, et en offni, oula ya sal. Pourtant je ne fais pas de mal, on m'appelle l'Oriental. On critique ma vie, on aime ma compagnie. Un sourire ou un cherche, je t'habo عندي, mais n'arrache. J'aime la musique et le chant, je trouve cela épatant. Que voulez-vous, c'est peut-être banal, mais je suis une vraie orientale. Moi je chante ce qu'il me plaît, musique arabe ou espagnole. Aïe aïe aïe, la musique me rend folle. Sbah warchi enrenni, fesh l'aïcha ta'jibni. Ah yibda elbi yash'al, je suis une vraie orientale. On m'appelle l'orientale, la brune au regard fatal. Aïe aïe aïe, on m'appelle l'orientale, je suis très sentimentale. Les chouffni, elle bouille chal, les yarofni, oula yahsan. Pourtant je ne fais pas de mal.
Une grande artiste très très oubliée malheureusement, c'est Lynn Monti, née à Alger en 1926, morte en 2003. Elle chantait, comme elle le dit d'ailleurs dans le texte, dans tous les styles, aussi bien le flamenco, la musique arabe, la chanson française, avec un engagement que vous avez entendu, un talent tout à fait extraordinaire. Voilà une artiste à redécouvrir, donc Madame Lynn Monti, dont il existe d'ailleurs une belle anthologie chez Marianne Melody.
Thank you.
n'est-ce pas, qu'elle a du caractère, de la couleur, cette valse musette, ça s'appelle Volubilis, c'est Émile Carrara, vous savez c'est lui qui a composé Mon amant de Saint-Jean, entre autres succès, c'était un enregistrement d'octobre 1942.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais tout de suite, nous avons rendez-vous avec mon invité qui va participer dans quelques jours à une expérience, si j'ose dire, extraordinaire, la renaissance de l'opérette radiophonique dans les murs de cette maison. Ce sera le 16 octobre à 16h. On va pouvoir entendre en direct, en public, Monsieur Beaucaire d'André Messager. Mon invité, il a fait bien d'autres choses. Il a chanté tous les grands rôles du répertoire, mais il cultive une affection particulière pour cette grande musique légère française. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-François Lapointe.
Au jardin où les fleurs sont écloses, n'existe pour moi qu'une rose entre toutes les roses, fière et sans émoi.
Bonjour Jean-François Lapointe.
Bonjour.
Tout d'un coup, vous avez sursauté. Ah mais c'est moi.
J'avais un peu oublié cet enregistrement, vous savez. Ah, mais c'est amusant quand même.
Je ne pouvais pas ne pas commencer avec Monsieur Beaucaire parce que
c'est sympathique.
Il se trouve que le premier enregistrement de vous que j'ai entendu, c'était cette opérette.
C'est vrai.
Ça m'avait beaucoup surpris de voir un jeune artiste lyrique en pleine ascension chanter ce répertoire. Ça faisait partie d'un disque qui s'appelait Grande Voix du Québec d'aujourd'hui. Vous vous rappelez?
Oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait plus de 20 ans.
Au piano, Marc Durand, il y a 20 ans.
C'était mon dernier professeur de piano, Marc Durand.
Votre dernier professeur de piano.
Oui.
En tout cas, voilà un bien joli disque qui nous rappelle que vous vous êtes intéressé très très jeune à ce répertoire.
Ah oui, je suis né pratiquement avec l'opérette dans ma petite ville de Chicoutimi. À chaque année, on montait une opérette et ça a été mes débuts sur scène à 17 ans.
Ah oui.
La première opérette que j'ai faite, c'était La Grande Duchesse de Gérold Stein,
d'Offenbach. Et qui montait ces opérettes à Chicoutimi? C'est une compagnie?
Oui, c'est une petite compagnie qui monte ça depuis 30 ans. Il y a une opérette par an et dans cette petite ville. Et puis j'en ai fait plusieurs. J'ai chanté plusieurs opérettes. J'ai dû en chanter au moins une dizaine.
Alors, on va d'ailleurs y revenir, mais ce qui est un petit peu particulier dans votre cas, parce qu'en général, vous savez, les jeunes chanteurs, ils font plein d'expériences parce qu'il faut apprendre le métier. Puis après, finalement, ils ne veulent plus chanter que du grand répertoire. Mais vous, non, vous continuez. On vous voit régulièrement apparaître dans des productions à l'Opéra Comique, ici à la radio, en dehors des grands rôles que vous chantez sur les scènes lyriques de France et du monde entier. Vous garder cette obstination à faire connaître ce répertoire?
En ce qui concerne le répertoire français, moi, j'ai toujours voulu toucher à tout. Et tout m'intéresse, autant la mélodie que
c'est vrai,
et puis entendu. Évidemment l'opérette. Et puis non, vous avez raison, en fait. Je me suis toujours intéressé à l'opérette et j'aime encore l'opérette. Et je trouve que souvent, ce genre-là n'est pas suffisamment défendu.
Il est même un peu dénigré, parfois.
Oui, pour ne pas dire même parfois méprisé. Alors, mais bon, moi, je crois que l'opérette, quand c'est... De toute façon, tout ouvrage français doit être bien défendu et bien fait. Mais l'opérette, il faut toujours y porter une attention plus particulière, je crois. Bien. Parce que c'est facile de tomber dans le mélo, dans quelque chose d'un peu...
C'est ça.
Il y a quand même des ouvrages qui ont, il faut le dire, qui ont un peu mal vieilli. Mais souvent, par exemple, Les Messagers, c'est absolument sublime au niveau musical.
Ouais.
Et bon, ça mériterait vraiment d'être défendu. Et ça, moi, je veux participer à ça.
Bien défendu, est-ce que ça ne veut pas dire aussi bien articulé, bien
ça,
dit,
ça veut tout dire,
bien en fait. Prononcé.
Exactement, ça veut tout dire et surtout bien joué et bien chanter, c'est certain.
Bon, alors on va y revenir dans un instant, et notamment à cette aventure de M. Beaucaire à la radio, mais je propose qu'on remonte justement un petit peu dans les années de votre apprentissage, de votre jeunesse, de votre éveil à la musique, avec un petit souvenir musical qui, je crois, a été marquant pour vous.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Voilà, le baryton Jean-François Lapointe, chanté en duo avec la basse profonde
Louis
Armstrong.
Qu'est-ce que j'adore cette musique.
C'est
qu'est-ce
vrai.
Que c'est beau.
Ça vous a marqué,
Ah, le texte est formidable. Moi, c'est quelque chose qui me suit, cette chanson-là me suit depuis longtemps. J'avais découvert ça, bon, pas si jeune, dans la vingtaine, début vingtaine.
What a wonderful
puis,
world.
Puis je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, avec toutes les guerres et tout ça, c'est tellement extraordinaire de se dire que, de voir la beauté, puis de dire que le monde est beau. Le texte est sublime, ça.
Voilà.
Puis là, moi, j'adore cette voix, évidemment. C'est inimitable. En tant que chanteur d'opéra, il ne faut jamais essayer d'imiter ça, parce que là, ouf, on se casse la voix, c'est sûr.
Bon, voilà, en tout cas, et puis c'est votre côté américain aussi.
Oui,
peut-être
le goût
du jazz, de la musique nord-américaine, c'est quelque chose d'important chez vous, Jean-François Lapointe?
Moi, j'adore. Mais bon, c'est vrai que bon, je suis quand même beaucoup plus tourné vers la musique classique. Mais le jazz, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et qui, quand je veux écouter des trucs... disons, sortir un peu de la vie de tous les jours. C'est plutôt ce genre de musique-là.
C'est ce genre de musique.
Oui.
Alors, vous l'avez dit, vous avez grandi à Chicoutimi, au Québec.
Oui.
Il y a combien d'habitants à Chicoutimi?
Oh, c'est une ville de 75 000 habitants, à peu près.
Voilà, donc qui ressemble à beaucoup de moyennes villes françaises,
exact.
Mais qui a sa vie musicale.
Tout à fait, c'est ça. Il y a un orchestre symphonique, il y a même un orchestre de chambre, un quatuor à cordes, il y a un conservatoire, des écoles de musique. Bon, évidemment, tout ça, aujourd'hui, c'est plus difficile aujourd'hui.
Les vaches maigres aussi au Canada, comme ici, pour les formations classiques.
Tout à fait. Tout à fait. Mais ça m'a permis, quand j'étais jeune chanteur, justement, quand j'étais jeune pianiste et...
Voilà, parce que vous avez fait un peu tous les métiers de la musique pour commencer.
Bah, c'est-à-dire, j'ai commencé, heureusement, j'ai fait du piano avant, j'ai fait 14 ans de piano avant de faire du chant. Et donc, ça m'a énormément servi. J'ai fait du violon aussi, de la direction d'orchestre.
Oui, c'est pour ça que je disais pas mal de choses.
Oui, j'ai une
mais vous avez eu aussi, alors peut-être pour vous éveiller au répertoire lyrique, la voix de votre père, qui était bariton, mais
mon
qui était ténor.
Mon papa qui était ténor amateur de haut niveau, si je puis dire.
Oui.
Et j'ai vu mon père... chanté très tôt à l'église, dans des petits concerts aussi, des petits récitals, et puis faire de l'opérette.
La Veuve Joyeuse?
Il avait fait La Veuve Joyeuse, j'avais 5 ans. Et ah ouais. Moi, je chantais ça dans la rue, je chantais partout les mots en les déformant, au lieu de dire, par exemple, il y a un passage, au lieu de dire « à des fémères bien-aimées », pour un enfant de 5 ans, on ne comprend pas trop ce que je disais « à des femelles bien-aimées ». Des petites anecdotes comme ça, mais ça a été ça a été mon initiation au monde lyrique, en fait. Puis, évidemment, on est toujours influencé par notre enfance, c'est ça qui nous guide.
Voilà, mais vous dites dans une interview qu'on apprend à chanter en chantant.
Ah, ça, je le crois.
Vous croyez?
Ça, je le crois vraiment que j'ai eu la chance de chanter tôt. Je me suis confronté, si je puis dire, au public très rapidement. Beaucoup à l'église. Je chantais des messes, des mariages, des funérailles.
L'étouffer aussi, les cafés, les restaurants.
Exactement, exactement. Mais j'ai payé mes études comme ça. Moi, j'ai payé mes études en faisant de la musique, en faisant du piano beaucoup. À l'époque, j'accompagnais des classes de ballet.
Ah
là,
oui.
Maintenant, on met toujours un disque, mais ouais. À l'époque, il y avait dans les classes de ballet, il y avait un pianiste.
J'ai fait ça aussi.
Et ça, oui. Et j'ai fait ça, et ça m'a servi, c'est évident. Puis du chant, oui, j'ai chanté très tôt dans des restaurants, dans des petites activités. Mais ça, c'est ça le métier. C'est en chantant qu'on devient chanteur.
Vous devez quand même beaucoup à Martial Singer.
Martial Singer a été mon dernier professeur. Ça a été pour moi un mentor important. C'est bon, j'ai pas étudié très longtemps avec lui. Il était très âgé. Il avait 85 ans quand je l'ai rencontré. 84. Mais pour moi, il a été très important pour justement l'éveil à l'importance de défendre le français, le style. Puis aussi me rassurer aussi, parce qu'on a toujours besoin en tant que jeune chanteur de savoir qu'on est dans la bonne direction et que ça va bien.
Ça sert aussi à ça.
Et comme c'était quelqu'un avec une expérience incroyable, puis qui avait un beau vécu, en tant que chanteur, mais en tant que professeur aussi. C'était un grand professeur qui a formé des grands chanteurs.
Ça se passait où, ça?
Ça, c'était en Californie, à Santa Barbara. Et donc, pour moi, il a été très important, oui. Puis je pense souvent à lui. C'est quelqu'un qui me suit. Quand je chante, je pense à ce qu'il me dit.
Qu'est-ce qu'il en penserait?
Exactement. Puis bon, il doit m'entendre quelque part.
Bien sûr. Bon, alors on va peut-être donner un coup de chapeau tout de suite à quelqu'un d'autre que vous aimez, que vous admirez. J'ai le plaisir d'accueillir d'ailleurs dans cette émission.
Une idole de jeunesse.
On va en reparler dans un instant. D'accord. Je propose qu'on écoute d'abord le Jugement de Paris, chanté par Charles Burle.
Déesse se querelle dans un bois, qu'elle dise ses princesses, la plus belle de nous trois, et voyez que si déesse pour enjoler les garçons, et voyez que si déesse ont de drôles de façons. De drôles de façons. Dans ce bois passe un jeune homme frais et beau. C'est moi. Sa main tenait une pomme. Vous voyez bien le tableau. À la plus belle de nous, et voyez que c'est déesse pour enjoler les garçons, et voyez que c'est déesse ont de drôles de façons, ont de drôles de façons. Ma pudeur, ma chasteté. Donne le prix à Minerve l'a mérité. Et voyez que ces déesses ont de drôles. ma naissance, mon orgueil et mon pain. Je dois l'emporter, je pense, donne-la. La troisième ne dit rien. Elle le prit tout de même, car qu'as vous m'entendez bien. Et vous que c'est déesse pour enjoler les garçons. Et vous
Charles Burle dans La Belle Hélène avec un contre-ré, vous
un
m'avez dit.
Un contre-ré comme voilà. Ça, mais attendez, c'est phénoménal.
François Lapointe.
C'est extraordinaire.
Idole
c'est magnifique.
De votre jeunesse,
ah,
Charles
oui,
Burle.
Ah oui, c'est cher vrai. Charles. Je l'ai beaucoup écouté. Beaucoup.
C'est vrai?
Oui, j'adorais cette voix. Je l'ai beaucoup écouté. Et quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour la première fois, c'était à Marseille.
Oui. Où il vit d'ailleurs.
Il vit, oui. Et puis c'était à la suite d'une... Enfin, c'était pendant les dernières répétitions d'un opéra. Et là, ça m'échappe, je ne sais plus lequel, mais ça fait une bonne dizaine d'années, peut-être un peu plus. Alors il se présente à moi, il vient me féliciter. Bon, il me fait plein de gentils compliments. Et là, il se présente et il me dit, je suis Charles Burle. Les larmes me venaient aux yeux, mais j'étais comme un gamin qui se retrouve devant quelque chose d'inaccessible. Et là, et depuis ce jour, on se parle assez souvent. Il vient toujours me voir. Il est venu là la semaine dernière, non, cette semaine. Et la troisième représentation d'Hamlet que j'ai fait à Marseille,
oui.
Est apparu comme ça à la fin à ma loge.
Vous êtes content, alors.
Ah, c'est quelqu'un que j'adore, vraiment.
J'espère qu'il reviendra d'ailleurs nous parler un de ces jours. Et c'est intéressant ce que vous disiez à l'instant, parce que Hamlet, je sais pas, d'Ambroise Thomas, un opéra que vous aimez particulièrement, que vous avez chanté beaucoup, pour peu qu'on le donne, parce qu'on le donne pas très souvent.
Je l'ai pas chanté comme j'aurais voulu autant de fois, parce que c'est vraiment un opéra que j'adore.
C'est vrai.
Mais c'est un personnage aussi que j'adore. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Vous savez que j'ai chanté beaucoup de Péléas dans ma vie. Et quand je faisais Péléas, je disais toujours Péléas pour moi. J'essayais pas d'en faire seulement un personnage évanescent, mais j'essayais d'en faire quelque chose de...
Assez romantique.
Assez romantique. Je trouvais que c'était un mélange, Péléas, de Roméo et d'Hamlet. Je mettais du Hamlet dans mon Péléas. Et finalement, je me rends compte que maintenant, quand je chante Hamlet, je mets du Péléas aussi. Donc, c'est pour dire que les expériences qu'on a nous servent évidemment toujours et on a tous nos références.
Cet opéra donc d'Ambroise Thomas qu'on chante, je crois, quand même encore moins que Mignon ou pas plus en tout cas. Vous l'avez quand même donné un peu dans des pays non francophones de temps en temps.
Il est la première fois que je l'ai fait, c'était à Copenhague au Danemark. Ça, je trouvais ça très amusant du fait que le personnage
évidemment
vient de là. J'ai donc visité aussi le château d'Elseneur. Ça, c'était la première fois. Mais je l'ai fait à Genève aussi et je l'ai fait à Trieste en Italie.
Voilà, donc
j'ai
quand même
eu l'occasion de faire
encore
trois fois ailleurs qu'en France. Oui, c'est bien.
Il est bien fait comme opéra, vous l'aimez, je veux dire, dans sa construction dramatique, dans sa...
Bon, après, c'est assez loin de la pièce et bon, après, on peut apporter quelques critiques. Mais oui, franchement, c'est une œuvre que je défends. Je défends toujours les œuvres que je fais, ceci étant.
Voilà.
Je les assume et les défends. Mais ça, j'ai beaucoup de plaisir et c'est pas difficile pour moi de défendre cette œuvre.
Alors, vous l'avez dit, l'autre rôle, alors... Plus encore, évidemment, qui vous est attaché depuis très longtemps, c'est Péléas. Alors, c'est drôle parce que j'ai retrouvé une interview de vous de 2007 où on vous demande « Chanterez-vous un jour Golo ?» Et alors, vous répondez « Pour moi, cela va de soi », etc. Donc, le passage de Péléas à Golo, ça fait partie des schémas presque obligés dans l'histoire du chant français,
bariton. Je crois pas que tout le monde a fait ça, mais c'est vrai que... D'abord, c'est une œuvre, moi, qui me qui me suit depuis de nombreuses années. Mon premier Péléas, j'avais 20 ans.
Ouais.
Donc, la première fois que je l'ai fait, c'était à l'université, c'était à l'école. Mais je l'ai très vite fait au niveau professionnel après. C'est une œuvre. Je ne peux pas me résoudre à quitter cette œuvre.
Il y a un moment où ça devient trop aigu, le rôle de Péléas, c'est ça?
C'est pas ça. Sincèrement, je pourrais le faire encore, Péléas.
Ouais.
Mais ma voix s'est beaucoup élargie au fil des années.
Voix, oui, enfin,
bon, j'ai jamais été un Péléas très très léger non plus, mais quand même, là, c'est franchement là. Je trouve que j'ai plus nécessairement la couleur pour faire ça. Et l'autre chose aussi, c'est que malheureusement, le temps passe et je vieillis. Et
non,
donc,
ça,
jouer les gamins de 20 ans, quand on en a 50, bon, à un moment donné, il faut quand même avoir la politesse de passer notre tour. Mais Golo, ça, c'est un personnage qui a moins de 30 ans. Ah oui, sûrement pas. Parce que là, la voix n'ira pas là. Ce que j'étais heureux en faisant Golo, c'est de voir l'autre côté du miroir aussi. C'est un personnage extraordinaire, Golo.
Oui, c'est vrai.
Un personnage beaucoup plus complexe encore que Péléas. Et ça, j'ai un plaisir fou à faire ce rôle. C'est un rôle de jeu aussi très fort, Golo. Donc, beaucoup de plaisir.
Alors, on le sait, de l'opéra français à la mélodie française, il n'y a qu'un pas. Ce sont souvent d'ailleurs les mêmes grands interprètes qui ont joué Debussy, Messager et qui ont chanté la mélodie. Alors, vous êtes bien là aussi dans la tradition depuis longtemps. Je propose, on va y revenir à la mélodie tout à l'heure, mais qu'on en écoute une d'abord, parce que vous avez sorti récemment un ensemble de mélodies françaises.
Hein. Oh, ça fait quelques années quand même, ça fait bien 7 ans, 7-8 ans. Mais...
Voilà, un récital de...
Ouais.
Toutes sortes de mélodies. J'en ai choisi une un peu légère, parce qu'on est dans une émission de musique légère, mais que j'adore, de Reynaldo Hahn, c'est L'Incrédule.
Ah oui.
Tu crois au marc de café, au présage, au grand jeu. Moi, je ne crois qu'en tes grands yeux. Tu crois aux contes de fées, aux jours néfastes, aux songes. Moi, je ne crois qu'en tes mensonges. Tu crois en un vague Dieu, en quelque saint spécial, en tel ave. Contre tel mal. Je ne crois qu'aux heures bleues et roses que tu m'éponges dans la volupté des nuits blanches. Et si profonde est ma foi envers tous.
Un poème de Verlaine mis en musique par Reynaldo Hahn, chanté par Jean-François Lapointe avec au piano...
Louis-André Barry.
Voilà. vous aimez Reynaldo Hahn?
Ah, j'adore. Non, mais c'est une musique d'une finesse inouïe.
Oui.
Et
Faut rappeler, d'ailleurs, vous avez chanté aussi dans Ciboulette.
Oui, tout à fait.
À l'Opéra Comique. Hein.
Tout à fait. Il y avait un DVD qui est sorti de ça.
Voilà. Donc toujours ce goût du répertoire français, ce goût des grands interprètes français. Vous me disiez, on a évoqué Charles Buhl, mais aussi par exemple Maddy Mesplé, que vous connaissez depuis longtemps, etc. Vous avez un attachement à ces grandes figures de la génération précédente.
C'était les disques que j'écoutais quand j'étais adolescent, d'opérette beaucoup et d'opéra comique. Et c'est amusant parce que finalement, quand j'ai commencé ma carrière en France assez jeune, j'avais 22 ans quand j'ai commencé à chanter en France, et je me suis retrouvé sur scène justement avec des gens que je connaissais par le disque.
Par le disque.
Et ça, c'était très émouvant.
Je voudrais faire un petit retour à vos années chicoutimiennes et québécoises. Vous l'avez dit tout à l'heure, non seulement chanté, mais dirigé des opérettes.
Oui, j'ai dirigé plusieurs opérettes. D'ailleurs, La Belle Hélène, j'ai dirigé deux productions différentes au Québec de Belle Hélène.
Mais alors, c'était longtemps. À votre initiative, c'est vous qui montiez les spectacles?
Non, pas du tout. J'avais été invité. Ah bah, la première, c'est vrai, j'ai été directeur de l'opérette à Chicoutimi déjà pendant 7 ans. Ça s'appelle la Société d'art lyrique. Et j'ai été directeur de cette société-là pendant 7 ans.
Ouais.
Et j'ai dirigé 5 productions pendant que j'étais là. Mais ensuite, j'ai été invité dans un autre théâtre qui est à Rimouski, une autre ville au Québec, et qui montre aussi, eux, ils montrent normalement un opéra par an, mais ils avaient fait Belle Hélène.
Ah, voilà.
Et j'ai dirigé Belle Hélène et j'ai dirigé Carmen aussi.
Vous aimez diriger?
Ah, j'adore. J'aurais aimé pouvoir faire ça plus souvent, mais ma carrière de chanteur a pris un élan tel que bon, ça a un peu étouffé la carrière du chef.
Dans un deuxième temps, peut-être vous reviendrez.
Peut-être que j'y reviendrai effectivement. Bon, c'est une vraie passion.
Mais en tout cas, c'est intéressant ce que vous dites parce que on sait qu'il y a aujourd'hui encore en France un certain nombre d'associations de passionnés d'opérettes, d'opéra comique qui essaient de défendre ce répertoire souvent mal défendu par les grandes maisons d'opéra. Ça existe aussi au Canada où c'était au temps de votre enfance, mais aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose. Comment ça évolue, je veux dire, ce goût?
Il n'y en a pas beaucoup, évidemment. Non, c'est un peu comme ici, c'est-à-dire que c'est un peu des initiatives soit d'amateurs ou de petites maisons.
Il y a encore des passionnés qui montent des spectacles aujourd'hui?
Il y en a, oui, il y en a. Mais souvent, chez nous, le financement est toujours difficile. C'est difficile aussi en Europe de plus en plus.
Ouais.
Mais les vraies subventions d'État, c'est quand même assez difficile à avoir, surtout pour les petites compagnies.
Ouais.
Donc évidemment, quand il faut trouver les sous pour monter
bien sûr.
Une œuvre, c'est difficile, c'est un travail très, très.
Donc c'est un répertoire qui est de plus en plus entre les mains des amateurs, finalement.
Malheureusement, d'une certaine façon, parce que bon, après, la qualité peut en souffrir, évidemment.
Voilà. Alors, heureusement, d'autant plus que vous soyez là aujourd'hui dans votre belle, grande carrière lyrique pour être le porte-parole, un des porte-parole de cette musique. Et vous allez l'être, je le disais, dans quelques jours, la semaine prochaine, à la Maison de la Radio, avec une production radiophonique de Monsieur Beaucaire. On faisait beaucoup ça dans les années 50-60. Oui. Et c'est très heureux que France Culture, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Opéra Comique, qui est le maître d'œuvre, ait eu cette très, très bonne idée. On va d'abord écouter un petit duo de Monsieur Beaucaire, alors de l'époque justement où la radio montait encore ce répertoire.
Je connais une belle, trop belle, hélas, à mon amour rebelle qui m'a pris dans celle-là. Et la cruelle a fait serment d'être muette à mon tourment.
Je connais un pauvre homme parfait. J'en ai regret, mais j'ai juré de me taire et je me tairai.
Ni l'un ni l'autre dit que rien ne serment nous retient. Et c'est pourquoi, ni vous ni moi,
pourquoi? Eh bien, nous deux ne disons rien. Pourquoi? Eh bien, nous ne nous disons rien.
J'y pense, on va rire, si j'ose poser. Un beau soir sans rien dire, je lui prenne un baiser. Elle a prévu dans son serment les mots, mais non le sentiment.
Il est clair que si l'ose, j'ai fait serment de rester bouche close au mot uniquement. Rien ne m'oblige à refuser de rendre baiser pour baiser.
Ni l'un ni l'autre dit. Un serment nous retient.
Et si pourtant
L'amour nous tient. Eh bien, on se comprend très bien. Eh bien on se comprend très bien.
Ah, si Lady Mary avait mon indulgence, elle pardonnerait.
Je sais bien ce qu'il va lui dire. Que ce Beaucaire est peut-être vraiment le gentilhomme, dont un soir, dans la féerie du clair de lune, Lady Mary écouta la chanson.
Et voilà comment est-ce qu'on chantait, qu'on parlait également à la radio dans les années 50. Ça vous fait sourire, Jean-François Lapointe?
Bah oui, c'est extraordinaire en fait. Mais bon, aujourd'hui.
C'était René Lenoti et Liliane Berton, merveilleuse soprano.
Ah oui, tout à fait. Qui a beaucoup enregistré d'ailleurs.
Moi, ce qui me frappe quand même, c'est la... Alors, parce que ça, c'est quelque chose qui a un peu disparu, pas chez les barytons, mais chez les sopranos, parce que c'est plus difficile pour les voix aiguës, cette articulation extraordinaire dans l'aigu, justement, qui fait qu'on comprend chaque syllabe.
Ah oui, et c'est très important, en fait.
Ouais.
Et moi, j'enseigne de plus en plus, et c'est une chose, j'insiste énormément là-dessus, sur l'articulation, et qu'on doit... pour moi, on doit comprendre le texte, peu importe, justement, la tessiture, ou peu importe la hauteur du son. Mais bon... C'est vrai que c'est pas gagné.
Mais est-ce qu'on a changé de façon de chanter? Pourquoi est-ce qu'on comprenait si bien les chanteuses d'autrefois? Parce qu'on on dit parfois aussi, oui, le timbre est un peu démodé, la façon de chanter. Donc est-ce qu'on a, changé de façon de chanter, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'attachement à la voix, une certaine rondeur, etc., fait que de toute façon, on ne peut plus comprendre aussi bien?
C'est une question complexe. Et je sais pas, c'est vrai qu'on a le son a évolué, on chante plus de la même façon, mais je pense aussi que c'est le fait maintenant que le chant est très international, donc on chante, les styles ont changé. Excusez-moi, je me reprends. Les styles, on devrait avoir des styles différents, mais aujourd'hui,
pour chaque répertoire,
exactement. Ouais. Quand on chante en français, on ne devrait pas avoir le même son et chanter de la même façon que lorsqu'on chante en allemand ou en italien. Mais aujourd'hui, avec les artistes qui sont internationaux, qui vont partout, le style est le même, peu importe ce qu'on chante, et peu importe souvent les époques. Évidemment, je ne parle pas du baroque, parce que ça, c'est autre chose.
Ouais, ouais.
Mais
eux sont plus attachés, je dirais.
Exactement. Et d'ailleurs, la révolution baroque là, qui s'est faite dans les années 80, 70, 80, ça a été extraordinaire. Et là, je rêve du jour où on aura vraiment la révolution du style français.
Ah, voilà,
et pour chanter vraiment ce... Mais ça ne veut pas dire d'avoir une voix pointue et démodée. Il faut quand même mettre une sorte de modernité dans notre chant. D'ailleurs, je me bats sur les R depuis longtemps.
Alors, c'est quoi votre théorie du R?
Pas de R roulé, ça. Exactement.
D'accord. Jean-François Lapointe, alors vous serez le 16 octobre à 16h. Alors ça, j'invite tous les auditeurs de cette émission qui adorent l'opérette à venir à l'auditorium de Radio France. Donc, pour entendre Monsieur Beaucaire en intégralité. Et en version concert radiophonique arrangée pour la radio, qui sera à la fois donc diffusée sur France Culture, je crois, et donnée pour le public. Comment vous êtes arrivé dans cette aventure?
Ah ben c'est une aventure. Bon, quand on m'a parlé de ça, j'ai tout de suite trouvé que c'était intéressant. Et Monsieur Beaucaire, bon, c'est un rôle que je n'ai jamais fait, mais j'avais la partition depuis longtemps, et c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, là, surtout à l'époque où je faisais plus d'opérettes.
Le rôle-titre, hein, celui de Monsieur Beaucaire.
Oui, c'est le rôle que je fais. Mais bon, j'ai accepté tout de suite. Évidemment, le mandat, si je puis dire, est assez difficile, parce que, bon, c'est une version concert, c'est un seul soir, et en même temps, on enregistre pour la radio, mais on enregistre aussi éventuellement pour un disque.
Ah oui.
Donc la pression est très grande.
Et vous faites toutes les scènes parler aussi.
On fait les scènes de texte qui ont été un peu arrangées, évidemment, c'est normal.
Raccourcies, mais pas tant que ça.
Effectivement. Et donc on enregistre tout ça.
C'est notamment le réalisateur, d'ailleurs, Cédric Aussier, que j'ai eu au téléphone hier, et qui va coordonner tout ça, et qui a souhaité vraiment faire une œuvre radiophonique.
Oui, puis je crois qu'il y aura même des bruitages qui vont se faire derrière. Voilà. Vous savez, comme quand il y a les combats à l'épée, ou ces choses-là.
Vous savez, on a encore des studios ici avec des portes qui claquent et tous les accessoires qu'il faut.
Donc
pour
là, on
faire
va ressortir tout ça. Alors, mais comme je vous dis, le projet est audacieux. Et bon, j'espère que tout va bien se passer.
Vous serez en duo avec Anne-Catherine Gillet, qui sera dans le rôle de Lady Mary, l'amoureuse de Monsieur Beaucaire.
Oui.
Et puis avec également Julien Bert, Jody DeVos, que j'aime beaucoup,
qui est une
jeune artiste aussi de l'opéra comique, Franck Le Guérinel, formidable, Jean Tedgen. Et ce sera donc le 16 octobre à 16h. Alors j'ai retrouvé quelque chose que vous connaissez peut-être ou pas, parce que vous savez que André Messager a écrit d'abord Monsieur Beaucaire pour...
En anglais.
En anglais,
oui,
pour Londres.
Oui, je sais.
C'est là que l'œuvre a été créée dans sa première version.
Ça s'est beaucoup chanté en anglais.
Ça s'est beaucoup chanté. Et il existe un enregistrement de la créatrice de l'œuvre, qui est Madame Maggie Tate, très grande chanteuse, très grande artiste anglaise. Et la voilà, donc, dans ce grand air de Lady Mary, mais version anglaise, ça s'appelle Philomel. Et c'est justement un enregistrement radiophonique américain de 1946.
On the dancing hill stand.
À la radio en 1948, Jean-François direct, Lapointe. Oui. Vous en pensez quoi de cet enregistrement?
Je trouve ça très intéressant. Puis on oublie souvent que Messager, grand chef d'orchestre qu'il était, a eu une très grande carrière à Londres.
Bien sûr, où il vivait une grande partie du temps. Il a dirigé Covent Garden.
Puis il dirigeait plein d'ouvrages, évidemment. Il dirigeait des Wagner. Bon, c'est lui qui a créé Péléas en 1902. Et donc cette opérette, il l'a d'abord écrite en anglais.
Vous allez répéter donc toute cette semaine.
Oui, on répète cette semaine.
Les artistes de la production. Mmh. J'ai oublié de mentionner d'ailleurs les chœurs. On vient d'entendre l'importance des chœurs. Il y aura également les chœurs de Radio France.
Ça, c'est certain.
Et puis il y aura un équilibre parfait à trouver. Vous trouvez pas je ne vais pas faire le polémiste parce que je suis sûr que ce sera très bien dirigé par Sébastien Roulant, mais que parfois les orchestres jouent un petit peu fort.
Effectivement.
Dans un souci évidemment de couleur musicale là encore. Mais qui est un peu au détriment du texte, de la compréhension du texte.
Ça arrive assez souvent, effectivement. Ouais. On doit se battre souvent comme ça, nous pauvres chanteurs.
C'est un rapport de force compliqué.
Mais bon, c'est pas simple non plus quand t'as 80 musiciens qui jouent en même temps de faire baisser tout ça. Les fosses sont sonores. Vous savez, on a eu une mode où on ouvrait les fosses de plus en plus.
Ce qu'on a fait à l'Opéra Comique,
exactement,
notamment.
Qui a été très dommage. On a changé l'équilibre de cette salle magnifique. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça devient difficile.
Donc quand les chanteurs deviendront chefs d'orchestre, peut-être ça changera un peu.
Ça, j'avoue que quand je dirige, je fais très attention à ça.
C'est vrai. Alors Péléas, vous nous avez dit d'ailleurs, vous le chanterez au printemps au Théâtre des Champs-Élysées.
Je ne me rappelle pas des dates, mais...
Ce sera Golo.
Oui, je fais Golo au TCE.
Et puis vos aventures dans le répertoire français, on a vu donc tout à l'heure, vous aviez chanté Ciboulette à l'Opéra Comique. Vous avez, on peut y revenir un instant, vous avez également chanté Marouf.
Marouf d'Henri Rabaud, qu'est-ce que c'est bien. Voilà une œuvre qui n'est pas assez faite.
C'est vrai, mais c'est un bon souvenir pour vous.
C'est un très beau souvenir. On avait fait ça à Marseille et c'était une très très belle production. Très très belle production.
Les gens s'imaginent d'ailleurs parfois que Marouf est justement une opérette. C'est beaucoup plus élaboré que ça comme musique.
Non, c'est vraiment un opéra. D'abord, il n'y a aucun texte parlé.
Oui.
Et puis non, c'est un opéra, c'est très difficile. Le rôle de Marouf, on ne cherche pas nos sorties et nos entrées. On est toujours sur scène. C'est un rôle très long, c'est un opéra très long.
Vous venez également d'enregistrer un des rôles dans la production du disque du Mage de Massenet, encore une œuvre qu'on n'entend quasiment jamais, qui a été montée par le Palazzetto Bruzzano.
Oui, ça fait quelques années déjà. Il y a un disque qui n'est pas encore sorti, mais il y en a un autre là, qui va paraître bientôt, que j'ai fait pour cette compagnie, qui est Dante de Godard.
Benjamin Godard.
Ouais.
Ça, c'est le prochain.
Ouais, l'enregistrement est fait, là, ça devrait sortir sous peu.
Ben écoutez, bravo voilà. cette exploration.
Moi, les ouvrages français, j'essaie de tout faire ce qui est possible. J'ai dû faire au moins, je sais pas, 65 rôles dans ma vie d'opéra français. C'est quand même pas mal.
Et alors, vos grands rôles, lorsqu'on sort du répertoire français aujourd'hui?
Bon, maintenant, j'attaque pas mal les Verdi. Ford dans Faust, Ford dans Falstaff, que j'ai fait quelques fois et que je referai.
Oui, parce que vous disiez à vos débuts que les barytons verdiens, ça ne vous attirait pas spécialement.
C'est-à-dire que c'était...
Peut-être sauf Falstaff pour commencer, disiez-vous déjà, vous voyez.
Exact, c'était... et c'est comme ça, c'est par là que j'ai commencé. Et puis Traviata, Germont, et puis l'an prochain, je fais mon premier Posa, et puis éventuellement Trovatore qui s'en vient aussi. Et donc, ça a suivi l'évolution de ma carrière. J'ai commencé, ma vingtaine et ma trentaine, avec tout ce qu'il y avait de répertoire léger, autant italien que c'est-à-dire surtout français, mais quand même dans le répertoire italien aussi. J'ai fait pas mal de Barbier de Séville, Figaro.
Bien sûr.
Et ensuite, j'ai abordé les ouvrages un peu plus larges dans la quarantaine, justement les premiers Verdi. Et l'an prochain, cette saison, je fais mon premier Wagner, je vais faire Tannhäuser et Wolfram.
On passe aux choses sérieuses.
Oui, effectivement.
Et si on vous proposait, comme on le faisait autrefois, de chanter Verdi ou d'autres Italiens en français, vous seriez partant?
Oui, pourquoi pas, si c'est des ouvrages qui ont été... Il faut quand même qu'il y ait un sens, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus n'importe quel ouvrage en français. Mais par exemple, Falstaff...
Ou Rossini, d'ailleurs, on disait aussi Le Barbier tout à l'heure, qu'elle était tellement chanteur.
Bon, évidemment, il y a des opéras français, mais il y a des opéras français qui ont été faites, par exemple, Don Carlo. Mais là, je vais faire la version italienne cette année, mais j'aimerais beaucoup faire la version française. Mais Falstaff, par exemple, Falstaff a été créé tout de suite après, et d'abord été fait en italien, mais a été fait tout de suite après
du vivant
en
Verdi.
Français. Oui, et c'est même Boito lui-même qui avait fait la traduction française. Donc ça, ce serait intéressant de monter éventuellement un Falstaff en français.
Bon, ben voilà un appel à le directeur
appel
d'opéra.
À tous.
Alors, on va retrouver encore un extrait, avant de vous réentendre dans une mélodie, on va écouter un autre extrait de Monsieur Beaucaire, parce que moi, je suis fasciné par Monsieur Beaucaire par la quantité de beaux duos qui jalonnent cette œuvre. Et il y a notamment, au deuxième acte, ce merveilleux duo qu'on va entendre maintenant, chanté par Michel Danse avec Martin Angelici.
Si doux, ce beau soir est sur vous sans tout voir. Faut-il perdre tout espoir de jamais vous émouvoir?
Oh, j'ai peur, maintenant de mon cœur frissonnant. Soyez bon, épargnez-moi la pudeur de tant d'émois.
Le duo du deuxième acte de Monsieur Beaucaire, c'était Michel Danse et Martin Angelici. Votre commentaire, Jean-François
Lapointe? Non, mais c'est beau, quoi. On voit cette musique qui est tellement bien écrite, avec une harmonie complexe, mais qui passe facilement. On a l'impression de facilité, mais non, quand on analyse
chaque
ça,
détail,
il y a beaucoup de choses. C'est vraiment de la belle musique. J'adore Messager.
Bon, c'est bien parce que ça tombe bien.
Ça tombe bien.
Ce duo, justement, vous allez le chanter dimanche, dans une semaine, le 16 octobre, à 16h, à l'auditorium de Radio France. France. Vous serez en duo avec Anne-Catherine Gillet, avec aussi Julien Berge, Jody DeVos, Franck Le Guérinel et encore d'autres. Les chœurs de Radio France, l'Orchestre Philharmonique sous la direction de Sébastien Roulant. Recréation donc d'un opéra radiophonique à ne pas manquer. Les auditeurs peuvent aller sur le site de l'émission Étonnez-moi Benoît pour en savoir plus et pour demander des places. Donc ça, ce sera le dimanche 16 octobre. Et puis deux jours après, donc Jean-François Lapointe, vous êtes en récital à Paris pour votre autre jardin secret, si j'ose dire, qui est la Mélodie française. On l'a déjà évoqué, mais peut-être on peut y revenir un peu plus longuement. Donc c'est cette passion que vous avez pour cette musique. Et là, vous donnerez un répertoire avec vos compositeurs favoris.
Oui,
quelques-uns du moins.
Malheureusement, la Mélodie, j'ai pas pu. Dans les dernières années, l'opéra a pris une telle place que je peux pas tellement faire de récital de Mélodie, ce que je faisais beaucoup quand j'étais jeune chanteur. Mais là, je suis heureux de pouvoir faire ce récital. Et oui, je commence avec Rinaldo Hahn, je fais les chansons grises. Ensuite, j'enchaîne avec des mélodies de Duparc. Et en deuxième partie, je fais les chansons gaillardes de Poulenc et un cycle de mélodies québécoises d'un compositeur québécois, Fantaisie dans tous les tons de Lionel Daunet.
Lionel Daunet, qui est un compositeur de l'époque de Poulenc,
à peu près. Hein, qui a eu une carrière parisienne aussi à l'époque, compositeur, chanteur, chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui touchait à tout, qui a écrit des opérettes, qui a écrit plus d'une centaine de mélodies. Et donc là, je vais pouvoir faire découvrir ce petit cycle, ce petit bijou qui s'appelle Fantaisie dans tous les tons.
Voilà, alors ça c'est... Alors, c'est un peu une nouvelle série de concerts à Paris, l'Éléphant Paname, hein, c'est eux qui organisent ça.
Oui.
Voilà, ça c'est l'instant lyrique, l'Éléphant Paname, il faut aller voir éléphantpaname.com sur internet et on trouvera toutes les précisions, c'est dans un bel endroit du 2e arrondissement je crois. Avec
tout je ne connais pas encore, alors je vais découvrir moi aussi, en même temps que vous.
Tout un cycle de mélodies, voilà, au fil des mois, il y aura par exemple, vous voyez, je vois en avril prochain, un gala Offenbach avec Franck Cassard et Christian Tréguier, nous avons Yann Beuron en septembre qui a chanté déjà là-bas et d'autres encore. Avec le pianiste Antoine Paloc, hein,
oui,
qui sera donc en duo avec vous.
Très bien. Oui.
Duparc, c'est peut-être pour vous le sommet de la Mélodie française.
Moi, j'adore Duparc. J'avais fait ma thèse de maîtrise à l'université sur Henri Duparc. Ça fait longtemps que ce compositeur-là me suit. J'adore ses mélodies et franchement, c'est ça aussi. On voit très bien déjà ses premières publications à 20 ans, ses 5 premières mélodies. On voit que toute son écriture, toute sa pensée est déjà là et c'est déjà fait.
Heureusement d'ailleurs parce qu'il a arrêté assez vite.
Il avait tendance à détruire ses œuvres. Il a composé un opéra qu'il a détruit. Ouais. C'est dommage. Bon, ça, c'était... Il était malade, le monsieur, si on peut dire. Mais...
On vous retrouve, Jean-François Lapointe, dans Chansons tristes.
Mm-hmm.
Quelle belle musique. Ah,
quel compositeur incroyable.
De Duparc, et puis avec ce grand élan de la ligne mélodique que vous donnez aussi dans votre interprétation avec Louis-André Barry au piano, Jean-François Lapointe.
C'est vraiment, je crois que ça, je disais toujours en mélodie, je pense que c'est mon compositeur préféré, Duparc.
Voilà, eh bien, écoutez, on était heureux de l'entendre avec vous.
Oui, je vous remercie.
Heureux de vous recevoir aujourd'hui à Paris, on vous voit pour notre joie souvent. Heureux de voir aussi que vous êtes toujours très, très attaché à votre Québec, où vous enseignez également, où vous donnez de temps en temps
quelques places. Je suis beaucoup en Europe, mais je défends toujours ma... J'embarque avec moi toujours le Québec partout où je vais et je défends la francophonie toujours. Parce que vous
l'embarquez tellement bien que là vous êtes même avec vos parents qui sont à Paris en ce moment.
Oui, c'est un voyage que je leur avais offert pour leurs 50 ans de mariage.
Ah, c'est beau. Voilà. Et vous avez visité de fond en comble Radio France aujourd'hui.
C'est vrai, on a fait le tour.
Voilà. On était en tout cas très heureux de vous recevoir, Jean-François Lapointe.
C'est moi qui vous remercie, c'était très agréable.
Vous venez ici quand vous voulez. Et puis, on va se quitter encore avec un de ces duos que j'adore dans Monsieur Beaucaire. Serment d'amour, vol, vol. Je ne sais pas si vous l'aimez, celui-ci.
Oh oui, tout à fait.
On retrouve l'interprétation de Michel Danse et de Martin Angelici avant de retrouver l'interprétation donc, de Jean-François Lapointe et de Anne-Catherine Gillet dans quelques jours à la Maison de la Radio. À bientôt.
Merci.
Vous demandez une rose, mais les tâches qu'elle impose, saurez-vous les accomplir bravement et sans faiblir?
Qu'à l'instant la fleur soit mienne, dès ce soir que je l'obtienne, et sans plus rien m'accorder, vous n'avez qu'à commander.
Bref et moi, propos fin.
Non pour moi, mot divin.
Tire d'elle,
mais qu'importe à mon timon,
mais dans l'âme frivole, folle, folle,
comment de ce monde
vole,
au danger je vole,
et serment de
vol, serment, oui, je vole, vole, vole.
Le
désir fuit les jours sombres, mais croyez qu'en vain les ombres éteindraient l'éclat des cieux, mon soleil lui dans vos yeux.
Compliment trop flatteur,
mais vraiment dans mon cœur.
Thank you.
Monsieur Beaucaire d'André Messager dans l'ancienne version radiophonique dirigée par Jules Gressier. Ça, c'était les années 50. Et donc, dimanche prochain, 16 octobre à 16h à l'auditorium de Radio France, ce sera la nouvelle version radiophonique dirigée par Sébastien Roulant, avec en particulier dans le rôle titre de Monsieur Beaucaire, Jean-François Lapointe, qui était mon invité ce matin. Vous le retrouverez également le 18 octobre dans le cadre de ses concerts Éléphant Paname, c'est 10 rue Volney dans le 2e arrondissement à Paris. Et le mieux, c'est d'aller voir éléphantpaname.com pour avoir tout le programme de ce récital de mélodie donné donc toujours par Jean-François Lapointe.
Thank you.
La Rhapsodie française, opus 53, de qui vous avez deviné? Non, sans doute pas. C'était Florent Schmitt, grand compositeur trop négligé, qui a écrit trois rhapsodies, une française, une polonaise, une viennoise, enregistrées toutes les trois à deux pianos par Hussein, Sermet et Koen Vopeik. Je me rappelle d'ailleurs avec émotion ces enregistrements qu'on avait réalisés avec Yves Petit-Deboise dans le cadre de la Biennale de la musique française de Lyon, cette musique française oubliée dont nous avons beaucoup parlé ce matin également, donc en compagnie de mon invité Jean-François Lapointe. Et puis vous le savez, désormais, chaque semaine, je fais revivre un peu du répertoire pop, funk, rock, soul, etc. de mes jeunes années, si j'ose dire, parce qu'il y a là des petits trésors que j'ai toujours aimé faire connaître ou sinon découvrir, du moins mieux comprendre avec la passion qu'il m'inspire. On a entendu il y a quelques semaines Barry White, la semaine dernière c'était Led Zeppelin, aujourd'hui c'est, j'ose dire, Dieu le Père, parce que serait la musique aujourd'hui, que serait le disco, le funk, le rap, la techno, tous ces genres qui se sont succédés depuis des décennies, que serait-il sans James Brown? C'est lui qui a tout inventé d'une certaine façon. Et je vais vous démontrer comment, en quelques secondes, si j'y arrive, James Brown, ce musicien que j'ai tant écouté. Alors d'abord dans le répertoire rhythm and blues de ses jeunes années, où il était un chanteur extraordinaire, mais où très vite, à partir des années 60, il a mis au point une sorte de machine rythmique extraordinairement personnelle, extraordinairement ingénieuse, sous son apparente simplicité. Et c'est ainsi qu'est née donc toute cette musique rythmique moderne qu'il a en quelque sorte inventée avec le passage de la soul au funk. Ça se fait au tout début des années 1970 avec un morceau comme Sex Machine ou encore celui que je vais vous faire écouter maintenant. On y ressent très précisément toute la recette de James Brown. D'abord, un seul accord, inlassablement ponctué par un riff de guitare et ensuite une ligne de basse chantante sous cet accord. Et puis autour de cela, la voix, les cuivres qui éructent avec une grande fantaisie. Ça a l'air très simple et il y a surtout cet appui sur le premier temps, le one, comme disait toujours James Brown, qui change un peu du swing traditionnel où on est plus dans le contretemps. Voilà, ça donne ce petit chef-d'œuvre qui s'appelle Hot Pants en 1971.
One, two. One, two, three, Hot pants! Hey, hot pants! Smoking hot pants! Smoking that hot pants! That's where it's at! That's where it's at! Take your pants up on! It looks much better time! My feet will keep going! Thinking of losing that funky feeling, don't cause you got to use what you got, that's just what you want. Hey, hot pants, hey, hot pants, smoking. Hot pants make you sure of yourself. Good God, you won't break. You got the only love left. Hey, so brother, if you think of losing that feeling, then don't. Cause a woman got to use what she got, just as much as you want. Hey, hey, hot pants. Now look, hot pants won't make you dance, but as slick as you are, you make the dance. We'll be right back.
vous l'ai dit, un seul accord à la guitare ponctué inlassablement par Monsieur Helton Chase Martin, qui est le guitariste de James Brown, avec toute la bande autour, évidemment, Fred Wesley au trombone, Bobby Bird à l'orgue, tous les musiciens de ce grand musicien. Je précise d'ailleurs, puisqu'on va parler d'arrangeurs dans un instant, que ce qui est merveilleux chez James Brown, c'est qu'on a l'impression que les arrangements se font avec toute la bande. Il n'y a pas vraiment d'arrangeur attitré qui écrit les parties, mais ils sont arrivés comme ça à une écriture assez parfaite par le travail collectif dont on a beaucoup de témoignages avec des disques extraordinaires de ce début des années 1970. Ça, c'était Hot Pants en 1971. J'y reviendrai. Pour l'instant, nous avons rendez-vous avec Serge et Laïc.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi, Benoît. France Musique.
Serge et Laïc pour sa chronique mensuelle consacrée donc au grand maître de l'orchestre et de l'arrangement. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Vous savez comment me faire plaisir, vous.
Et oui.
Je vous avais dit un jour quand même, c'est merveilleux ces arrangements de Jean Gilberto dans ses musiques brésiliennes. C'est qui ce type, Ogerman?
Eh bien oui.
Enfin, Ogerman, c'est un des plus grands. Ça.
Mais oui, et absolument.
Vous allez tout nous dire aujourd'hui.
Oui, absolument. Il en a fait des centaines de disques. Alors, eh bien, Ogerman, il est né en Allemagne. Klaus Ogerman, il est né en Allemagne en 1930. Il fait partie des musiciens d'Outre-Rhin qui ont réussi, mais vraiment une très très grande carrière internationale. Alors, après des études de piano, d'écriture, de direction d'orchestre à Nuremberg, eh bien, il débute dans les années 50 et travaille comme pianiste et arrangeur dans divers orchestres allemands connus, comme ceux de Kurt Edelhagen ou ceux de Max Greger.
C'est des orchestres de musique légère?
Oui, tout à fait, absolument. Ou de jazz un peu, celui de Kurt Edelhagen. Il accompagne aussi sur 10 des dizaines d'artistes allemands, tel fut son début de carrière en fait. Et en 1959, Klaus Ogerman tourne la page, il s'installe à New York et il devient l'arrangeur d'innombrables célébrités dont on va parler, tout en enregistrant quelques disques avec son orchestre, comme celui consacré aux musiques des années 20, et leurs incontournables Charleston, on est loin, de James Brown.
Procurer ce CD, La magie des grands orchestres internationaux, volume 2, c'est réalisé par notre ami Serge Laïc. C'est chez Marianne Melody et vous y retrouverez ce... C'est beau ce morceau, ce Charleston de Klaus Ogerman. Là, on sent l'amoureux de la couleur. Hein.
Exactement, exactement. Alors, au début des années 60, eh bien, la carrière américaine maintenant de Klaus Ogerman prend son envol parce que son talent est reconnu par les responsables de grands labels américains comme Mercury, Verve, RCA, qui le sollicitent tous pour arranger fait accompagner leurs artistes et dans tous les styles. C'est ça qui est incroyable.
Un caméléon.
Absolument. Le jazz avec Bill Evans ou Stan Getz, la soul music, le rock avec les Drifters, la chanson internationale avec Sammy Davis Jr. ou Frank Sinatra, mais, et vous l'avez rappelé dès le début, une des spécialités de Klaus Ogerman sera aussi la musique brésilienne avec ses arrangements signés pour João Gilberto. Je sais que vous adorez ce disque avec Klaus Ogerman ou Antonio Carlos Jobim qu'on appelait le roi de la bossa nova. Alors, les arrangements d'Ogerman mêlent alors contre-chant avec violon souvent à l'unisson et jeu subtil des flûtes traversières.
We two, alone here in this terrace by the sea. The sun is going down and in your eyes I see the changing colors of the sea. It's time for you to go, the day is done. And shadows stretch their arms to bring the night. The sun falls in the sea and down below a window light we see just you and me. Alone here in this bar with dimming lights, a full and rising moon comes from the sea. And soon the bar will close for you and me. But there will always be a song to tell, a story you and I cannot dismiss. The same old simple story of desire. And suddenly that kiss, that kiss. Suddenly that kiss, that kiss.
On n'est pas très loin de ces disques avec João Gilberto que j'évoquais
tout à fait, absolument.
Avec ses contre-chants extraordinaires de violon.
Et les flûtes et les bois.
Et les flûtes et les bois. C'est extrait de l'album Un certain monsieur Jobim, 1967, la chanson Photographe, chantée par Antonio Carlos Jobim, arrangée merveilleusement par Klaus Ogerman, dont vous nous parlez ce matin, Serge.
Alors, dans les années 70, eh bien, Klaus Ogerman poursuit sa carrière d'arrangeur prolifique. Et s'il excelle aux côtés d'artistes, alors il y a eu Barbara Streisand, Jobim, on vient de le voir, et une foule d'autres, il décide de lever le pied pour se consacrer presque exclusivement à l'écriture d'œuvres classiques. Alors, musique symphonique, de ballet, concerto, il en a écrit énormément. Il y a énormément de classiques qu'il a fait. Et alors, toutefois, avant d'être absorbé définitivement par cette facette de son métier, eh bien, Klaus Ogerman remporte en 1980, figurez-vous, un Grammy qui couronnait le meilleur arrangement pour une musique instrumentale, en l'occurrence pour le guitariste, alors là, vous allez être content, George Benson. Par ce même guitariste, je vous propose donc quelques mesures du morceau « So This Is Love ». Et là encore, violon à l'unisson à Klaus Ogerman sont bien présents en contrepoint du guitariste.
Thank you.
voilà, qui chatouille agréablement mes oreilles.
Eh oui, vous, laïcs. L'amoureux de Barry White.
Voilà, George Benson en 1976, toujours dans les arrangements donc, de Klaus Ogerman. Ça s'appelait This Is Love.
Alors, si Klaus Ogerman avait donc quitté le milieu du show business pendant près de 20 années, à partir du début des années 80, on va dire, il avait néanmoins accepté de montrer en 2001 que son talent était intact en signant les superbes arrangements, et là vraiment je pèse mes mots, du disque de Dinah Crawl, The Look of Love, vendu, figurez-vous, à plus de 3 millions d'exemplaires. Et alors, avant d'écouter Dinah Crawl et Ogerman, dans Wonderful, eh bien, Fred Manoukian, qui dirige depuis des années le big band qui accompagne Laurent Gérard lors de ses tournées avec de très nombreux musiciens, donc, eh bien, Fred Manoukian nous dit ce que lui inspire cette musique de Klaus Ogerman. Et c'est un musicien que Fred Manoukian admire énormément.
La première idée qui me vient à l'esprit quand on me demande de parler de Klaus Ogerman, c'est la peinture. Les aquarelles. En quelques coups de pinceau, un peintre, il peut nous dessiner quelques nuages dans un ciel bleu, ou encore les vols d'oiseaux sur un paysage sobre et naturel. C'est l'image que ça me donne, quoi. C'est un arrangeur qui, avec sa propre maîtrise de l'écriture des cordes et des petits bois, il sait mettre en valeur et transcender les artistes aussi divers que Jobim, Dinah Crawl, Breaker dans le somptueux Cityscape. Moi, je trouve qu'il sait, en utilisant une tenue de corde ici, un petit groupe de flûte là, mettre en valeur le soliste d'une façon très originale. Sa sobriété et son dénuement sont ce que j'appellerais avoir une patte. Un style tellement caractéristique qu'on peut le reconnaître dès les premières mesures. Quand j'écoute un arrangement de Ogerman, j'ai l'impression qu'il ne reste que l'essentiel, qui n'est pas si facile que ça à maîtriser. En une phrase, je qualifierais Klaus Ogerman de véritable impressionniste des temps modernes.
It's wonderful, it's marvelous, you should care for me, it's awfully nice, it's paradise, it's what I love to see. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, marvelous that you should care for me. Wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's awful nice, it's paradise, it's what I love to see. It's four-leaf clover time. From now on, my heart's working overtime. Oh, it's wonderful, marvelous that you should care for me.
Merveilleuse patte de Klaus Ogerman dans ce disque de Dinah Crawl, It's Wonderful. Serge et Laïc, donc c'était son dernier disque hein, en 2001.
Dernier disque de variété, absolument.
Et
oui.
Depuis ?
Alors depuis, là, il a toujours continué à faire du classique. Et puis, il s'est retiré à Munich depuis plusieurs années. Et alors, le mystère règne vraiment autour de sa possible disparition cette année, en 2016. Seules des rumeurs indiquent qu'il serait décédé. Voilà, je ne peux pas en dire plus.
Ah bon ?
Eh oui.
Bon, bah, on essaiera de le savoir. C'est vraiment, en tout cas, un grand musicien.
Ah oui, absolument.
Je vais m'intéresser aussi à la partie classique de son œuvre.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Serge, pour cette présentation de Klaus Ogerman. Juste un mot avant de nous quitter. Un auditeur m'a écrit pour me dire, il avait compris que nous offrions des places, je crois, pour Monsieur Bocquer chanter à la radio par Jean-François Lapointe dimanche prochain, 16 octobre. Non, malheureusement, ce ne sont pas des places offertes, ce sont des places payantes avec l'Orchestre Philharmonique, les chœurs de Radio France. Vous avez tous les renseignements sur le site de l'émission, mais je vous assure que ça vaut la peine, hein. C'est pas très cher et puis c'est quand même de la très très belle musique. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Adelino Mello avec Antoine Giraud, Julie Guérou et Christine Amado pour la réalisation. La semaine prochaine, j'aurai la grande joie d'accueillir ici Pierre Perret. Voilà, nous évoquerons toutes, si nous y arrivons, en tout cas une bonne partie de sa carrière. Bon week-end à tous. Et sur France Musique, à midi et demi, vous avez rendez-vous avec Philippe Venturini.